est vrai que la question de la loi occupe une place qui est en même temps une place vide, tout à fait essentielle dans la scène d'écriture de Kafka.
Rue d'Ulm, École normale supérieure, Jacques Derrida.
Si la loi occupe cette place vide, c'est aussi que l'interprétation de la loi, qui n'est pas moins importante que la loi, qui n'est pas secondaire par rapport à la loi, est aussi ce qui fait loi. Et l'hypothèse que la loi n'existe pas est une hypothèse sur la structure même de la loi, qui agit comme loi, peut-être, en tant qu'elle n'existe pas, en tant qu'elle n'existe pas d'une manière tout à fait singulière. Il me semble que Kafka s'est constamment expliqué sur un mode qui était quelquefois théorique, quelquefois celui de son écriture même, s'est expliqué avec cet étrange topique de la loi, cet atopique de la loi, cette folie de la loi qui a lieu en tant qu'elle est aussi insituable et qui agit depuis ce non-lieu en quelque sorte. J'y ferai écho avec un texte qui s'appelle Vor dem Gesetz, devant la loi, qui est à la fois un fragment du procès, qui donc a sa place et sa fonction dans le chapitre 9 du procès, mais qui est en même temps détaché du procès comme petit texte autonome en quelque sorte, ayant sa propre loi ou faisant sa propre loi, non seulement décrit ce mécanisme de la loi auquel vous référiez, mais fait la loi à son tour. Vous connaissez ce texte, il s'agit apparemment d'un récit assez bref, quelques lignes, qui décrit l'arrivée de l'homme de la campagne devant la loi.
Devant la loi.
Bernard Noël.
Devant la loi se dresse le gardien de la porte. Un homme de la campagne se présente et demande à entrer dans la loi. Mais le gardien dit que pour l'instant il ne peut pas lui accorder l'entrée. L'homme réfléchit, puis demande s'il lui sera permis d'entrer plus tard. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Le gardien s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se baisse pour regarder à l'intérieur. Le gardien s'en aperçoit et rit. « Si cela t'attire tellement, dit-il, essaie donc d'entrer malgré ma défense. Mais retiens ceci, je suis puissant, et je ne suis que le dernier des gardiens. Devant chaque salle, il y a des gardiens de plus en plus puissants. Je ne puis même pas supporter l'aspect du troisième après moi. » L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés. La loi ne doit-elle pas être accessible à tous et toujours? Mais comme il regarde maintenant de plus près le gardien dans son manteau de fourrure, avec son nez pointu, sa barbe de tartare longue et maigre et noire, il en arrive à préférer d'attendre jusqu'à ce qu'on lui accorde la permission d'entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir auprès de la porte, un peu à l'écart. Là, il reste assis des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis à l'intérieur et fatigue le gardien de ses prières. Parfois, le gardien fait subir à l'homme de petits interrogatoires. Il le questionne sur sa patrie et sur beaucoup d'autres choses. Mais ce sont là questions posées avec indifférence à la manière des grands seigneurs. Et il finit par lui répéter qu'il ne peut pas encore le faire entrer. L'homme, qui s'était bien équipé pour le voyage, emploie tous les moyens, si coûteux soient-ils. afin de corrompre le gardien. Celui-ci accepte tout, c'est vrai, mais il ajoute « J'accepte seulement afin que tu sois bien persuadé que tu n'as rien omis. » Des années et des années durant, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens. Le premier lui semble être le seul obstacle. Les premières années, il maudit sa malchance sans égard et à haute voix. Plus tard, se faisant vieux, il se borne à grommeler entre les dents. Il tombe en enfance et comme, à force d'examiner le gardien, pendant des années, il a fini par connaître jusqu'aux puces de sa fourrure, il prie les puces de lui venir en aide et de changer l'humeur du gardien. Enfin, sa vue faiblit. Et il ne sait vraiment pas s'il fait plus sombre autour de lui ou si ses yeux le trompent. Mais il reconnaît bien maintenant dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. À présent, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences de tant d'années accumulées dans sa tête vont aboutir à une question que jusqu'alors il n'a pas encore posée au gardien. Il lui fait signe parce qu'il ne peut plus redresser son corps roidi. Le gardien de la porte doit se pencher bien bas, car la différence de taille s'est modifiée à l'entier désavantage de l'homme de la campagne. « Que veux-tu donc savoir encore ?» demande le gardien. « Tu es insatiable. »« Si chacun aspire à la loi, » dit l'homme, « comment se fait-il que durant toutes ces années, personne autre que moi n'ait demandé à entrer ?» Le gardien de la porte, sentant venir la fin de l'homme, lui rugit à l'oreille pour mieux atteindre son tympan presque inerte. « Ici, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant je m'en vais et je ferme la porte. »
Qu'est-ce qui fait loi aux yeux de Kafka? Quand vous dites, pour Kafka, la loi est vide, et malgré tout, il se sert de la loi comme d'un stratagème, d'une manœuvre, et aussi d'un piège.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'en sert. La transcendance intouchable de la loi reste ce qu'elle est. La loi vient du tout autre, et le fait que le lieu de la loi soit vide, comme un tabernacle vide, ne signifie pas qu'on fait ce qu'on veut de la loi, qu'on y projette ce qu'on veut, ou qu'on la manipule. Elle n'est pas là, c'est-à-dire que son mode impératif n'est pas lié à la présence de son contenu, si on peut dire. Hein. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle est vide. Elle parle depuis un lieu qui n'est pas situable dans notre géographie, dans notre géométrie, dans notre topologie. Et elle est liée à l'écriture même. C'est-à-dire que, dans le petit récit dont nous parlions tout à l'heure, on s'aperçoit finalement que ce dont parle le récit, quand il décrit la transcendance inaccessible de la loi, c'est en même temps de la loi qu'il fait, lui, qu'il performe en quelque sorte, en tant que texte. Le texte produit la loi et produit ce non-lieu depuis lequel la loi commande, en quelque sorte. Et on pourrait, dans une démonstration un peu minutieuse, faire apparaître cette performance ou production de la loi à partir de l'écriture littéraire elle-même. Je crois que c'est avec ça que Kafka s'est sans cesse expliqué, sur un mode direct, comme dans les textes auxquels nous faisons allusion, ou sur un autre mode. Et dans le texte devant la loi, quand on le lit alors cette fois à l'intérieur du procès, on le voit déplier une sorte de dispositif d'interprétation infinie, C'est un échange de type talmudique entre l'abbé et K, au sujet d'une écriture qui aurait précédé la loi, qui était avant la loi dans la Bible, et au sujet de laquelle des interprétations à l'infini s'échangent sur le statut de ce récit qui est devant la loi, qui est avant, devant la loi au sens de avant la loi. Mais les interprétations font la loi elle-même. Les interprétations ne sont pas des discours au sujet d'une loi préexistante, elles ont des effets de loi en quelque sorte.
La loi commence avec la famille, selon vous, pour Kafka, et aboutit à la femme.
Moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle commence avec la famille ou si la famille commence avec la loi. Que serait la famille sans la loi ?
Qui a désigné qui ? Enfin, la loi a désigné Kafka, Kafka a désigné la loi ?
Pour répondre à votre question, il faudrait que le nom de Kafka fût épelable ou pensable avant la loi ou hors de la loi. Or, un nom propre désignant un individu, ça n'a pas de sens hors du monde de la loi. C'est-à-dire que s'expliquer avec son nom propre, avoir un nom propre, appeler ou s'appeler par un nom propre, c'est déjà avoir affaire à la loi. Donc on ne peut pas dire que, selon votre formule, Kafka est désigné la loi, la loi est désignée Kafka. Je crois que ce que l'individu vivant, répondant au nom de Kafka, à ce avec quoi il s'est débattu tout le temps, c'est avec cet enchevêtrement, ce rapport enchevêtré entre la famille, le nom, la loi et l'individu porteur du nom.
Comment survient la loi juridique sur cet échiquier ?
Le juridique n'est qu'une des instances déterminées de la loi. Et justement, ce qui est fascinant dans les textes dont nous parlions tout à l'heure, notamment dans Devant la loi, c'est qu'à aucun moment il ne détermine la loi. Il ne dit de quelle loi il s'agit. Loi naturelle, loi morale, loi politique, c'est la loi. C'est ce qui fait qu'une loi est une loi. Alors ensuite, elle peut devenir, dans tel contexte, à telle époque, loi politique, loi juridique, loi morale, mais ce qui a tenu l'écriture de Kafka en mouvement, si on peut dire, c'est le rapport à la loi en général, à l'être loi de la loi. Alors évidemment, on peut, comme vous le savez, on a été justement tenté de le faire, mettre en rapport cette interminable explication avec la loi, avec le judaïsme de Kafka. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut, sans autre protocole, trancher ce débat. Il me semble que ce qui fait la singularité de Kafka, c'est ce croisement d'appartenance et de non-appartenance, qui lui a sans doute permis, par cette espèce de douce et non polémique non-appartenance au judaïsme, de recevoir de ce rapport étrange au judaïsme quelque chose de l'étrange familiarité avec la loi, une familiarité sans familiarité avec la loi. Et certains diront c'est ça qui précisément est judaïque chez lui, c'est cette non-appartenance au judaïsme, le fait d'avoir vécu sur le mode de l'étrangeté, de l'extériorité, de la marginalité, l'appartenance instable à une communauté, et que c'est ça qui est justement juste. Alors là, on entre dans une logique que je trouve paradoxale et redoutable, qui consiste à reconnaître les traits de l'essence judaïque précisément dans ça, dans son étrangeté par rapport à toute essentialité, dans son extériorité même, pas, ou dans son insituabilité en quelque sorte. Alors par là, on pourra dire que Kafka est le plus essentiellement juif qu'un autre, mais on peut dire aussi bien le contraire. En tout cas, c'est ce tremblement du rapport au judaïsme qui me paraît aujourd'hui le plus provocant, si vous voulez, chez Kafka.
Comment pourriez-vous éclairer le mot loi ?
Bon, pour le formuler de manière économique et triviale, peut-être peut-on dire que la loi, c'est ce à quoi il n'est pas question d'échapper. Quand on définit un espace, quel qu'il soit, l'espace en tant que tel est limité par des repères ou par des frontières, des clôtures qui se donnent comme pouvant être transgressées ou franchies. La loi, en ce sens, ne peut pas occuper un espace. Et c'est pourquoi elle est, comme le disait Kafka dans le texte que nous évoquions tout à l'heure, elle est insituable, elle n'est pas présente dans un espace. La loi, on ne peut pas y échapper. C'est ce à quoi on ne peut pas y échapper, non seulement selon le schéma classique qui veut que transgresser une loi, c'est encore la confirmer, que aller au-delà de l'interdit, c'est répéter l'interdit. Ce n'est pas exactement ça que je pense. Quand je dis que la loi, c'est ce à quoi on ne peut pas échapper, c'est que si une loi est une loi, c'est-à-dire si elle commande catégoriquement, si son impératif est absolument catégorique, à ce moment-là, elle ne doit pas pouvoir être dérivée, expliquée par une généalogie, une genèse, une histoire. Et par conséquent, étant anhistorique, elle ne peut pas être réappropriable et on ne peut pas y accéder. Ou quand on accède à la loi, on accède à ses modes de révélation, à ses modes de présentation historique, mais à la loi elle-même, on n'accède pas. Donc, on ne peut pas y échapper parce qu'on ne peut pas y accéder, si la loi est la loi. Dès lors qu'on ne peut pas y accéder par une explication, une genèse, une histoire, à ce moment-là, la loi, ce qu'elle commande, à travers tous les autres commandements qu'elle peut donner, c'est « ne viens pas jusqu'à moi, n'accède pas jusqu'à moi ». Et par conséquent, d'une certaine manière, « ignore-moi comme loi ». N'accède pas à ma demande au moment où tu m'obéis, en quelque sorte. Et cela crée une situation bon, que certains appellent de « double bind », une situation de double contrainte, qui est le rapport de folie à la loi. Hein, le rapport vigilant à la loi, en quelque sorte, ne peut être qu'un rapport de folie. Un rapport dans lequel la loi est interdite, en quelque sorte. La loi, je dirais que la loi, elle n'est pas l'interdit, elle est interdite elle-même. Hein. La loi est interdite. Et cette expérience de la loi comme interdit, comme ce qui est interdit, c'est la folie à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, si vous me demandiez de répondre en somme de manière à la fois économique, formelle et triviale à la question du rapport à la loi, je dirais c'est ça, on ne peut pas y échapper, pas plus qu'à la folie. En général, on met la loi du côté de la raison. Hein. C'est comme ça que traditionnellement on comprend la loi, c'est ce qui est du côté de la rationalité, de l'organisation, du logos, de nomos, etc. Mais je dirais, pas du tout pour manier un paradoxe, que le rapport vigilant à la loi est du côté de la folie. Je crois que des textes comme le procès ou comme devant la loi sont l'explicitation évidemment discrète et non pédagogique et narrative, sous la forme de fiction narrative, de cette folie de l'être devant la loi. Être devant la loi, ça ne veut pas dire seulement qu'on ne peut pas entrer dans la loi, comme l'homme de la campagne qui veut, il arrive, n'est-ce pas, devant la porte de la loi pour y entrer. Il veut y entrer, n'est-ce pas ? Il veut entrer dans la loi. Il ne veut pas seulement accéder à la loi, il veut entrer dans elle. Eh bien, être devant la loi, ça n'est pas seulement ne pas pouvoir entrer dans la loi, c'est comparaître devant la loi, être le sujet de la loi, devant elle, hein, tout en étant, présent parce qu'on est devant la loi, dans l'espace du hors-la-loi. Hein. Le sujet, que le sujet devant la loi soit en même temps, parce qu'il est devant la loi, hors-la-loi, hein, qu'il n'y arrive pas à y entrer, c'est ça la folie du rapport à la loi. Si vous considérez maintenant que le dispositif d'écriture de ce texte devant la loi est tel que l'expression devant la loi, selon qu'elle est situé avant le texte, comme titre, ou bien comme incipit du texte, devant la loi se tient le gardien, etc., etc., que cette expression devant la loi décrit en même temps l'opération par laquelle le texte intitulé devant la loi fait la loi. Fait la loi et, à partir de la loi qu'il fait, défie à l'infini les commandateurs, les exégètes, les prêtres, les interprètes, hein, qui vont eux-mêmes se trouver interminablement devant la loi, devant le texte, hein, qui aura fait la loi par un coup d'écriture qui est, je crois, le très doux et très modeste, très discret coup de force de Kafka. Hein. C'est-à-dire qu'il a, par le fait, par ce qu'on peut appeler son œuvre, démontrer comment l'écriture pouvait faire la loi. Comment une écriture qui s'explique avec la loi, qui n'est qu'une interprétation talmudique interminable du phénomène de la loi, elle-même pouvait se signer, en quelque sorte, et dans la structure paradoxale de la signature, faire la loi à son tour. Comment un texte peut devenir loi. Et je crois que si toute littérature, loin d'être, comme on l'a dit si souvent, simple jeu ou transgression de la loi, ou ébat à l'écart de la loi, si toute écriture, toute littérature est essentiellement une explication avec la loi, hein, ne se conçoit pas sans ce rapport à la loi, je dirais qu'à cet égard-là, l'écriture de Kafka est exemplaire. Il y a plusieurs manières d'être exemplaire, mais c'est une explication exemplaire avec ce qu'on appelle la loi aujourd'hui.